Salut à tous, quelques news du board, c'est Benj.
Hello,
bonjour à tous, en ce lundi ensoleillé, nous venons d'empanner
avec l'association Water Family sur la préservation de l'eau.
Et maintenant, rendez-vous au départ.
Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Voix Rousse. Pour son prochain tour du monde, Benjamin va passer plus de 30 jours dans les mers du Sud, les mers les plus isolées du monde. Ces mers qui entourent l'Antarctique représentent un énorme défi pour les marins. On peut y rencontrer des vagues de plusieurs mètres de haut, des icebergs, des vents et des courants très puissants et des températures négatives. Autant de conditions très rudes, tant pour les bateaux que pour les marins. Dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre les particularités de cette partie de la planète et quels défis représentent ces mers isolées pour les marins. Aujourd'hui, avec Binge, nous sommes accompagnés de Gisèle et Anna, membres de la Water Family. Bonjour Gisèle, bonjour Anna, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien, merci.
Bonjour à tous, et ben merci de nous recevoir, tout va très bien.
Anna, Gisèle, vous êtes membre de la Water Family. Au quotidien, vous sensibilisez les enfants sur l'importance de préserver les océans, mais vous avez en plus de ça une réelle expertise dans le domaine puisque vous avez toutes les deux étudié l'océanographie.
Oui, donc moi c'est Gisèle et je suis coordinatrice des antennes bretonnes de la Water Family. Et en effet, j'ai fait un master en sciences de la mer, plus précisément en expertise et gestion de l'environnement littoral et marin. J'ai attiré dans le milieu maritime par mes études et aussi un petit peu par ma deuxième casquette de monitrice de voile et de skipper et de bateau. Et voilà, et donc c'était un beau moyen de réunir ces deux mondes.
Du coup, moi, c'est Anna. Je suis la coordinatrice de l'antenne de Charente-Maritime et Charente pour la Water Family. Moi aussi, j'ai fait des études en océanographie. Donc, après le bac, je suis partie faire une licence de sciences marines et j'ai continué en master. Et dès la première année de fac, je me suis spécialisée en océanographie physique et biogéochimique. Donc, j'ai vraiment voulu comprendre l'importance du cycle des éléments, comment la machine océanique dans son ensemble fonctionnait. Et ma passion des océans, elle me vient de mon enfance. J'ai eu la chance de grandir en cœur de parc national à Port-Cros dans le sud de la France et d'avoir pu grandir au milieu d'une réserve de poissons. Ça m'a donné envie de comprendre comment tout ce merveilleux monde fonctionnait. Et donc à la suite de mes études, j'ai eu envie de m'investir dans l'associatif pour partager mes connaissances. Et donc j'ai eu la chance de finir à la Water Family en tant qu'animatrice et coordinatrice d'antenne.
Aujourd'hui, vous allez nous accompagner dans cette table ronde autour de l'exploration des mers du Sud, mais surtout de l'importance de les préserver. Alors, Anna et Gisèle, concrètement, c'est où les mers du Sud ?
Alors, déjà, pour le nom de mer du Sud ou le Grand Sud, ce ne sont pas réellement des termes scientifiques, mais plutôt en tant que tels, mais plutôt vraiment des nominations, des noms qui ont été donnés par des marins, navigateurs et navigatrices, donc souvent qui partent faire le tour du monde. Et donc ça regroupe des zones géographiques autour de trois caps et trois océans. Donc en partant Cap de Bonne-Espérance dans l'océan Atlantique, Cap Lewin dans l'océan Indien et le dernier cap, le Cap Horn, qui relie le Pacifique et l'Atlantique.
Mais du coup, quand on parle de mer du Sud, on peut aussi parler d'océan Austral, le nom plus scientifique, ou l'océan Antarctique. Donc l'océan Austral, ça va être toutes les parties de l'océan Pacifique, Atlantique et Indien qui se situent à plus de 35 degrés sud. Donc c'est vraiment cet océan circulaire qui entoure le continent Antarctique et qui englobe une partie de ces trois océans Pacifique, Indien et Atlantique. Et la spécificité de l'océan Austral, c'est que c'est un océan qui est entouré de mer comparé aux autres océans qui sont toujours entourés de continents.
Alors justement, je me permets de rebondir, quelles sont un peu les caractéristiques, les spécificités de ces mers du Sud ?
Outre sa particularité d'être entourée d'océans, c'est une zone qui est très riche en biodiversité. C'est une zone clé pour de nombreuses espèces. L'océan Austral, ça permet notamment aux baleines ou à énormément d'oiseaux marins de venir se nourrir avant de partir dans leur grande aventure de reproduction. Donc c'est un océan vraiment important pour de nombreuses espèces. C'est aussi un océan qui a un rôle dans la circulation océanique mondiale, qu'on appelle la circulation thermohaline. Donc la circulation qui est induite par la chaleur et la densité des océans. On a vraiment un tapis roulant qui traverse tous les océans du globe et qui va venir redistribuer la chaleur aux quatre coins de la planète. Et cet océan austral, cet océan du sud, c'est lui qui redistribue cette chaleur puisqu'il est connecté à tous les océans, tous les autres océans. Et puis il est aussi très important parce qu'il vient séquestrer du carbone, du CO2 atmosphérique. Donc les océans, on dit que c'est des puits de carbone par différentes pompes biologiques et physiques. Ils vont absorber le CO2 atmosphérique et le séquestrer dans les profondeurs. Et donc ils vont venir retirer un peu de cet excédent de CO2 que nous, on produit en trop grande quantité. Et l'océan austral, il représente 20% de la surface océanique mondiale, mais il va capter jusqu'à près de 40% du CO2 atmosphérique anthropique, donc le CO2 que l'être humain produit. Donc ça, il a vraiment un rôle clé dans les problèmes d'aujourd'hui du changement climatique. Et c'est un océan qui est très important, c'est un océan qui est important à étudier et à comprendre pour comprendre comment tous ces process et ces phénomènes physiques viennent capter ce CO2.
C'est vrai que les mers du Sud, leur caractéristique aussi, c'est certainement un système météorologique assez complexe, parce que c'est vraiment une zone de convergence de différents systèmes météo. Donc en effet, on a des successions de dépressions, donc c'est des zones de basse de pression atmosphérique, où les vents tournent en sens inverse des aiguilles d'une montre, et ces systèmes de dépression circulent d'ouest en est. Et aussi, accompagné de grandes zones anticycloniques, donc des zones, des systèmes météo opposés, ou caractérisées par des zones vraiment de haute pression, et donc accompagné de vents un petit peu plus faibles, et ces hautes pressions dues aux températures très basses de l'Antarctique. Et donc, dans ces zones anticycloniques, on va avoir un vent un peu plus faible, mais une mer toujours aussi formée, qui reste formée des zones dépressionnaires. Et ce sont des zones où il y a énormément de présence de blocs de glace. Mais les marins pourront mieux témoigner que nous de la complexité de ces zones de navigation.
Justement, Benjamin, lors de ton premier Vendée Globe, tu as navigué dans ces eaux. Quels sont les défis que tu y as rencontrés ?
Les défis qu'on y a rencontrés, je pense, c'est qu'on a peu d'expérience et peu d'expertise. Il y a quand même peu de personnes qui naviguent dans ces océans, du moins quand on est entre deux caps. Et c'est vrai que nous, notre objectif, c'est quand même de naviguer le plus sud possible. Il faut savoir qu'on est... On est tenu par la limite des glaces qui est fixée par la direction de course. Mais voilà, comme la Terre est ronde, enfin du moins, en tout cas, je le pense. Après, on a peut-être des contre-experts. Mais du coup, comme la Terre est ronde, c'est vrai que nous, plus on est sud, moins on parcourt de distance. Donc en général, on cherche à trouver, comme disait Gisèle tout à l'heure, à exploiter les dépressions qui passent d'ouest en est pour nous faire aller le plus vite possible, mais pas non plus aller dans des vents qui sont trop forts. Et à chaque fois, on cherche à repiquer au sud pour faire le moins de distance possible. Donc c'est vrai qu'on est dans des endroits où il y a peu de monde. Moi, la particularité que j'ai eue dans cet océan, c'est que pendant quasiment 30 jours, j'ai croisé un seul bateau, qui était un bateau de la marine française qui était en lien avec l'Ifremer, je crois, qui allait au Kerguelen. Mais à part ça, j'ai croisé personne, quoi. Donc c'est vrai que c'était assez hallucinant. Donc je pense que voilà, c'est ça qu'on apprécie nous aussi en tant que marins dans ces océans-là, c'est que c'est un certain mythe et le fait que ce soit un peu l'aventure d'aller là-bas, c'est une vraie particularité pour moi de ces océans-là. Et les dépressions là-bas sont rapides, il peut y avoir des mers qui sont très formées. Et comme les dépressions, elles partent quasiment du Cap Horn et elles vont un peu plus loin que l'Australie. Elles ont un chemin qui est important, donc elles peuvent être assez violentes. Donc c'est vrai qu'on a tout le temps ce flux de, de mer qui est très particulier dans l'océan Indien, qui est partagé entre de la mer qui vient du nord-ouest, de la mer qui vient du sud-ouest. Donc ça crée une mer qui est très croisée, qui est très difficile à naviguer. Et un océan Pacifique avec une houle très longue. C'est des zones un peu aventureuses, donc c'est ça qui est super. Et c'est des zones qu'on connaît peu. Mais c'est sûr que du coup, les scientifiques, eux, n'y vont pas souvent non plus. Donc c'est aussi, je pense, des zones, comme disait Anna tout à l'heure, qui sont très importantes pour notre écosystème, mais qu'on ne connaît pas non plus parfaitement bien.
En fait, vous êtes des sortes d'explorateurs, vous qui partez dans ces eaux très isolées. Comment on se prépare à un tel voyage? Est-ce que vous, justement, le peu de personnes qui y sont allées vous donnent des petits tips? Est-ce que vous vous renseignez auprès de...
Oui, c'est sûr qu'il y a des bouquins, on a des météorologues qui nous aident à préparer le parcours avant de partir. On étudie aussi sur les cartes marines et sur la météo, c'est différents, c'est différents espaces. Mais voilà, je pense que... C'est toujours pareil, entre s'y préparer et la vérité, il y a toujours un monde. Mais oui, il y a plein de moyens de s'y préparer. Déjà, c'est vrai que ça commence par lire des bouquins. Ensuite, ça passe par regarder des reportages, des documentaires. Et après, il y a aussi l'aspect de se faire sa propre idée. Je pense que chaque marin qui traverse ces endroits, il trouve son bonheur peut-être pas par la même porte. C'est ce qu'on voit d'ailleurs souvent, chaque récit est assez différent. Il y en a qui ont trouvé ça très dur à cause du froid, il y en a qui ont trouvé ça très dur à cause de la solitude. Donc voilà, ça crée des espaces et des environnements où chaque personnalité se dévoile aussi finalement, parce qu'on est dans des conditions qui sont pas faciles. Et dans le pas facile, il y a une part de... Une part d'inconnu qui fait que, qu'on a beau avoir lu tout ce qu'on voulait et avoir préparé ça au mieux et au maximum, au point qu'on pense presque pouvoir connaître ces océans avant d'y aller, et bien finalement, chaque personnalité s'y révèle parce qu'à chaque fois, en fait, chacun l'appréhende de manière différente, chacun découvre ces mers-là de manière différente. Et ce qui est beau avec l'océan et la mer de manière générale, c'est que c'est quand même jamais la même. Donc malgré le fait qu'on nous l'ait raconté 50 fois, on n'aura jamais exactement les mêmes conditions que, qu'ont eu ceux qui sont passés avant nous. Mais ça, c'est partout. C'est partout où on peut aller dans le monde, en mer. C'est toujours un environnement qui est différent, quoi.
Et est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager, justement, sur ces 30 jours que tu as passés au sud de la planète?
Je pense que la petite anecdote, c'était probablement l'appréhension un peu au début de rentrer dans ces mers-là. Et en fait, je me rappelle avoir eu un souci de génératrice qui me permettait de charger les batteries. Donc en fait, la génératrice était HS. Et donc du coup, j'avais plus que les hydrogénérateurs, donc ces petites hélices qui tournent dans l'eau qui permettent de charger les batteries grâce à la vitesse du bateau. Et je pense que c'était en rentrant dans les mers du Sud, après avoir passé le Cap de Bonne-Espérance, que ça m'arrive. Et je me dis, en fait, je ne connais pas, c'est l'inconnu. Est-ce que c'est vraiment raisonnable d'aller traverser ces océans-là dans lesquels il n'y a rien du tout, uniquement avec un moyen de charge de batterie? Et donc, il y avait eu ce questionnement d'inconnu, etc., de se dire, là, je suis loin de tout. Pour le coup, j'ai aucun endroit où m'abriter, ou très peu. La décision a été pas difficile à prendre, parce qu'au final, je l'ai vite prise en me disant, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Et que de toute façon, à un moment, il fallait bien y aller pour continuer la course. Mais c'est vrai qu'il y a eu... Ça m'a fait poser pas mal de questions, quoi, du fait que, que ce soit l'inconnu, qu'on ne connaît pas non plus ces environnements-là. Et après, un océan Indien qui était quand même difficile, avec une mer très formée, et on se faisait un peu malmener. Au fur et à mesure d'être suivi par les albatros et de continuer cette aventure solo dans le Grand Sud, j'ai finalement pris beaucoup de plaisir. C'est passé finalement beaucoup plus vite que ce que je pensais.
Ouais. Gisèle, Anna, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de missions scientifiques qui partent étudier ces mers ou pas tant que ça finalement?
En effet, les mers du Sud sont des zones qui sont très éloignées de la Terre. Donc en effet, elles sont loin de nos continents. Mais il y a très peu de passages, le trafic maritime est beaucoup moins dense dans ces zones, au vu de la complexité des systèmes météo et aussi de l'éloignement. Mais toutefois, il y a quand même beaucoup d'expéditions scientifiques, au niveau même international, qui partent tous les ans. Donc explorer, étudier et analyser d'un point de vue chimique, biologique, physique, donc le fonctionnement général.
Enfin, effectivement, il y a des expéditions scientifiques. On peut parler des terres antarctiques australes françaises où il y a des scientifiques toute l'année sur ces terres qui font des suivis. On a des bateaux qui sont assez spécialisés de ces zones, comme le Polar Stern qui accueille des scientifiques du monde entier. Il y a aussi des données satellitaires qui nous permettent d'avoir des données continues sur cette zone. On peut aussi retrouver des bouées qui dérivent dans l'océan austral en continu pour relever certains paramètres physico-chimiques ou faire de l'écoute dans cet océan. Toutefois, on n'a pas des données en continu. C'est souvent sur des mêmes périodes, plutôt pendant l'été austral où l'océan est plus facile d'accès. On manque de données vraiment sur le long terme et de données en continu pour avoir une étude vraiment globale et une compréhension de cet océan. Et il y a des expéditions qui sont en cours de réflexion, pour en citer une française, l'expédition du Polar Pod de Jean-Louis Etienne, qui est un très beau projet pour venir laisser un bateau à la dérive dans cet océan austral, qui est une dérive circulaire autour du continent antarctique, qui va permettre, on l'espère, d'apporter énormément de données sur cet océan. Donc on a quand même pas mal de choses, mais il manque aux scientifiques, je pense, des données en continu pour pouvoir vraiment comprendre tous les changements qui sont très rapides aujourd'hui dus au changement climatique.
Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important de récolter un maximum de données dans ces endroits très reculés ?
Parce que donc c'est les mers du Sud, donc c'est cette zone géographique et maritime fait partie au final d'un seul océan qu'on pourrait appeler l'océan mondial. En effet, depuis toujours, on a appris le nom et les zones de plusieurs océans. Mais au final, ce qui est important de retenir, c'est que tous ces océans, ils sont connectés, ils sont liés et forment un seul océan. Et donc, connaître une partie, notamment ces zones géographiques, et bah permet d'avoir une compréhension globale de l'océan, de son fonctionnement, des interactions avec les écosystèmes, d'un fonctionnement aussi global de tous les courants marins qui relient les océans. Et c'est aussi important d'avoir de plus en plus de connaissances et de savoir sur ces zones, parce qu'en quelque sorte, préserver, vu que tout est lié, préserver aussi une partie de l'océan qui est plus proche de nous, ça veut aussi dire préserver l'ensemble de l'océan mondial qui est, on continue, connecté et lié.
Et aujourd'hui, avec un changement climatique qui est de plus en plus rapide, on sait que les zones polaires subissent des modifications extrêmement rapides comparées à des zones plus tempérées. Et donc, venir vraiment comprendre ces systèmes polaires qui changent, ça nous permettrait, nous aussi, de pouvoir nous adapter nous adapter face à ce changement climatique.
Et alors, justement, Anna et Gisèle, il me semble qu'avec la Water Family, vous avez un guide qui parle de ces sujets.
Oui, c'est vrai, à la Water Family, on a un carnet pédagogique qui s'appelle Odyssée Terre-Océan et qui en effet regroupe plein de thématiques et d'aspects qu'on a vus ensemble aujourd'hui. C'est un carnet qui se construit autour de 12 thématiques pour arriver à comprendre comment et pourquoi la Terre et l'océan sont reliés. Et donc pourquoi c'est important de protéger ces deux environnements. Et surtout, comment il est possible de protéger l'océan depuis la Terre. Donc, c'est vraiment une des thématiques qui englobe différents aspects de compréhension d'un point de vue biologique, d'un point de vue aussi de la compréhension du fonctionnement du littoral, mais aussi du milieu marin et aussi nos actions, les actions humaines sur Terre et comment elles peuvent aussi avoir un impact positif sur l'océan. C'est un chouette carnet donc qu'on peut exploiter en intervention en classe, auprès de scolaires, mais aussi sur des projets plus spécifiques avec un jeune public ou aussi en événement grand public, donc aussi pour un public adulte.
Et alors concrètement, quelles actions on peut mettre en place dans notre quotidien pour limiter notre impact sur les océans?
Bah déjà, quelle action on peut mettre en place au quotidien? Pour moi, il y a une prise de conscience de l'importance de l'océan. En effet, souvent, on a une relation assez particulière avec l'océan parce que c'est un milieu qui nous fascine, ça peut être une source d'inspiration et on a presque une distance avec ce monde si fascinant et passionnant. Et donc déjà, se relier à lui, et donc prendre conscience en effet de sa beauté, de son fonctionnement, en effet parce qu'il est fascinant aussi pour comment il fonctionne d'un point de vue scientifique. Et donc déjà, pour moi, en effet, il y a cette prise de conscience et de comprendre que les océans, et notamment l'océan mondial, est essentiel pour nous, même qui sommes à Terre. Parce qu'en effet, il fait partie du grand cycle de l'eau. Donc c'est grâce à lui, on peut aussi avoir une bonne circulation de l'eau autour de toute notre planète Terre. C'est aussi une partie de notre poumon de la planète. Comme les arbres sur Terre, il arrive à nous donner de l'oxygène. Donc voilà, pour moi, il y a déjà une prise de conscience de s'intéresser à cet environnement-là et aussi comprendre le lien que nous, on a avec lui et aussi nos impacts au quotidien qui sont souvent influencés par ce rythme frénétique de notre société qui nous encourage d'aller de plus en plus vite et de bouger de plus en plus, de consommer de plus en plus. Donc peut-être un deuxième engagement, ça peut être en effet peut-être parfois de ralentir cette frénésie, de se poser les bonnes questions et d'être conscient aussi de nos impacts. Donc pour moi, il y a un petit peu aussi cet aspect de réduire un peu notre vitesse sur cet environnement.
Comme Gisèle le dit bien, nos modes de consommation ont un impact assez énorme sur l'océan. Donc au quotidien, c'est réfléchir à ce qu'on achète, la provenance, quels ont été les modes de fabrication, les modes de transport. On sait que le transport maritime, c'est une grande source de pollution. C'est des centaines de milliers de bateaux qui sont sur l'océan chaque jour en même temps. Donc de pouvoir acheter plus localement, aussi bien de se nourrir plus localement, mais d'avoir des objets du quotidien peut-être en moins grande quantité, mais d'une provenance plus proche de nous et avec un mode de fabrication moins impactant, donc avec moins de produits chimiques, moins de plastique. Donc c'est tous ces choix qu'on fait au quotidien qui peuvent nous aider à préserver ces océans. Et si vous voulez plein d'exemples et plein de bons gestes à mettre en place, vous pouvez aller sur notre site internet, sur notre plateforme pédagogique et télécharger toutes nos ressources. Et voilà, il faut juste s'engager et chaque jour, comme le dit bien Gisèle, prendre conscience que tous nos achats ont un impact sur cet océan.
Et toi, Vinge, est-ce que tu as mis en place des petits gestes du quotidien pour préserver nos océans?
Comme le disait Anna ou Gisèle, je pense que des petits gestes du quotidien, on en a tous et ça passe aussi par là. Nous, les petits gestes du quotidien qu'on aime bien pratiquer de manière générale dans l'équipe, c'est qu'on achète souvent d'occasion, on récupère, voilà, je pense qu'on évite d'être dans le monde du jetable. Nous, de toute façon, on travaille dans un milieu qui est un peu élitiste aussi, donc il nous faut forcément des produits de qualité de manière générale. Et c'est vrai qu'on essaye de faire attention aux produits que l'on consomme au quotidien et que ce soit aussi, bien sûr... je trouve que c'est assez facile de pouvoir réutiliser des produits qui ont déjà servi à quelqu'un. Aujourd'hui, on a plein de plateformes qui nous permettent de faire ces achats-là. Et donc, je trouve que c'est assez bien. Et après, pour compléter un peu ce qui a été dit, c'est vrai que nous, on a, on a, On n'a pas signé de pacte avec l'océan, mais on pourrait tout à fait le faire, dans le sens où, voilà, Anna l'a expliqué tout à l'heure, mais je pense que l'océan, dans un sens, prend soin de nous aussi. Il nous protège, en fait, aussi, plus ou moins. Donc, en fait, aujourd'hui, on parle de la protection des océans, mais en fait, c'est juste normal. C'est presque un deal qu'on a avec lui. Il prend soin de nous, on prend soin de lui. Voilà, il faut qu'on trouve notre bon équilibre, et je pense qu'il faut qu'on ait ça en tête, quoi. On peut pas lui faire faux bond. Sinon, ça va nous retomber sur la tête.
Anna et Gisèle, merci de nous avoir rejoints avec Benjamin pour ce podcast. Est-ce que vous auriez un petit mot pour la fin ?
Bah non, merci à vous. Et merci aussi à Benjamin et toute l'équipe de nous embarquer en quelque sorte à chaque aventure, à chaque départ de course, et de nous permettre aussi de partir avec lui, avec vous, à la découverte de ces océans. Et merci beaucoup.
Et merci à vous, la Water, d'être avec nous aussi au quotidien pour aller sensibiliser un max de kids. À bientôt. Ciao.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de La Voix Rousse. J'espère que le sujet abordé aujourd'hui vous aura plu, que vous en aurez découvert un petit peu plus sur les mers du Sud et sur les gestes simples à mettre en place au quotidien pour préserver les océans. À bientôt.
Benjamin Dutre, pala palala. Benjamin Dutre, pala palala. Sur Guyot Environnement, il va porter aux quatre vents les bonnes idées de Flaggy Water Family. Oh.